Alors, nous sommes avec Smokey Joe and the Kids. Alors, The Kid, pardon. Alors, vous avez sorti un album en mars, là, Nasty Tricks, et vous jouez ce soir pour les bars en trans, donc bonjour.
Bonjour.
Enfin, bonsoir plutôt. Alors,
Ok, bon, bah, on y va. Vas-y, Rosine.
Moi, alors, tout d'abord, je voulais savoir d'où vient l'univers un peu mafia des années 30, des États-Unis, que vous avez, qu'on ressent, je trouve, que ce soit en lisant, voilà. Vos biographies ou même Smokey Joe and the Kids, ça a
vos vraiment, tenues scéniques également.
Voilà, ça a vraiment un aspect, un univers particulier de mafia des années 30, un peu du style de Le Parrain. Je voulais savoir d'où ça venait, pourquoi vous avez choisi un peu cet univers.
En fait, on a monté, tout est parti l'idée d'une soirée. En fait, on allait souvent dans un bar qui avait un style un peu rétro. Et on a décidé de monter une soirée et tout est parti de là. On s'est dit ouais, ça serait sympa de faire une soirée thème prohibition. Et donc on a décidé de notre côté, de faire une sélection de morceaux, d'autres personnes ou à nous, parce que ça fait longtemps, ça fait 5 saisons qu'on travaille ensemble, 6 ans. Mais ça fait le projet Smokey Joe and the Kid à 2 ans et demi en fait. Mmh. Et on s'est dit bah ce serait sympa de faire une playlist qui soit vraiment ambiance hip-hop, gangster, années 30, autour du thème de la prohibition. On s'était sapé pour l'histoire, on avait fait un petit film justement où on avait toute l'ambiance années 30 et c'est vrai que la soirée a vraiment super bien marché, on s'est beaucoup amusé, puis à partir de là c'est devenu un défi, on a commencé à composer des tracks un peu dans ce genre là, à se cantonner, à se limiter un peu, à se contraindre un peu pour vraiment défendre un univers et on a décidé donc de continuer à se saper en mode gangster, en costard 3 pièces, pour moi c'est la Gomina, pour lui c'est les lunettes, les vieilles Ray-Ban et donc voilà, on a monté tout cet univers là et on essaie de le défendre au maximum. Depuis un an là on défend aussi le live vidéo, on a intégré de la vidéo live, on l'aura pas sur backstage parce que c'est pas adapté, mais la prochaine fois qu'on reviendra à Rennes, voilà, on reviendra avec la vidéo. Surtout que c'est une rennaise en plus, la VJ. Et donc on a intégré plein d'éléments de vieux films des années 30, des choses qu'on a tournées nous-mêmes aussi, plein des vieux films d'animation, tout ça. Et donc on a essayé de défendre tout ce projet-là comme une esthétique à part entière. Quoi.
Et justement, est-ce que c'est en lien avec le fait que vous reprenez pas mal de vieux classiques de jazz, vous en faites des samples, voilà, vous utilisez un peu cet univers aussi du coup de jazz années 30 des États-Unis, c'est en lien,
bah ouais,
c'est parti de cette soirée.
C'est la période qui lit tout. Quoi. C'est cette musique-là et cette période-là sont très très proches et voilà quoi. Du coup, c'est vrai que nous ça a été facile au moment où on prenait cette musique de se dire qu'on allait aussi prendre l'esthétique qui collait avec quoi.
Puis c'est vrai que c'est très influencé par la culture traditionnelle américaine et la culture contemporaine américaine. D'un côté on a le hip-hop qui est voilà ce qui se fait depuis les années 78-80 à fond aux États-Unis et à côté de ça on avait toute cette ambiance la gangster et il y avait des projets qui des espèces de mecs qui faisaient du hip-hop qui se la jouaient vachement gangster mais les samples n'allaient pas, la musique qu'ils utilisaient défendait pas ce concept entièrement. Et on s'est dit bon bah voilà, allons-y franchement et on mélange vraiment ça, on va faire les gangsters mais on va avoir les billets de banque, on va avoir le Jack Daniels, tous les stéréotypes qu'il peut y avoir. Mais voilà, jouer avec ces stéréotypes là. Et puis après moi c'est aussi lié à mon expérience, j'ai été élevé au jazz aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours touché. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous a semblé intéressant à défendre quoi.
Il y a quelque chose d'hors norme, j'ai l'impression, autant dans la musique des années 30, qui défend les thèmes comme le bootlegging, la prohibition, etc. Et encore aujourd'hui, dans l'Amérique contemporaine, avec le hip-hop, c'est toujours quelque chose qui semble hors la loi, hors norme, en termes de thème. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça et quel message, un petit peu borderline, s'il y est, avez-vous à faire passer ?
Bah nous, justement, on est contents de ce lien. Pour nous, la musique de l'époque, c'était justement le hip-hop de la musique de l'époque, c'était le hip-hop d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est parfait en fait. Donc on va survoler là-dessus, et c'est pour ça qu'on aime bien avoir apporté ce contraste aussi à faire du hip-hop, mais à être déguisé en vieux gangster, parce que tout ça c'est lié et voilà, ça c'est parfait pour nous en fait.
Vous voulez un peu réhabiliter le swing en mélangeant avec le hip-hop,
pas forcément le swing, mais la musique de Bad Boys quoi.
Ouais, d'accord.
Il y a deux choses. La Cap Calloway, par exemple, c'est un des artistes qu'on consomme. C'est un génie qui a fait des tas de choses entre les années 20 et les années 90. Il est mort très tard. Mais lui, toutes ses chansons, ça parlait de la maquerelle, des prostituées, du dealer de drogue, des fumeurs de ganja, de tout. En fait, c'était déjà hyper subversif. Et en plus de ça, la musique qui était... La musique était jouée dans les clubs, en fait, c'était de la musique pour danser, c'est une musique très joyeuse, très chaleureuse, et il y avait un côté intéressant de ramener cette musique-là qui était faite pour les clubs, qui était devenue complètement désuète, et de ramener cette énergie-là, donc le côté dansant, chaleureux, mais y intégrer les éléments de hip-hop et de musique électronique, parce qu'on ne fait pas du hip-hop pur, on a tendance à faire des grosses basses, à mettre des sons qui peuvent des fois s'apparenter au dubstep, ou à, ou à la drum and bass, avec des sons électroniques assez puissants. Et c'était justement l'idée de trouver ce lien-là entre une musique très dansante et une musique puissante contemporaine. Quoi.
D'accord. Alors vous avez partagé l'affiche avec Chinese Man, Caravan Palace ou encore General Electric, Le Peuple de l'Air. Est-ce que qu'est-ce que ça vous a fait de partager l'affiche avec ces grands noms, et surtout est-ce que vous vous inspirez un peu de ce genre de groupe ou
Bah en fait, ouais, au début, quand on a commencé, on s'est vachement inspiré de toute cette vague de hip-hop française instrumentale. Tous les mecs comme Wax Taylor, Chinese Man, beaucoup en fait. Parce que ça partait un peu dans le délire où on voulait aller, c'est-à-dire aller chercher des vieux trucs et les mixer avec des trucs d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on a joué avec pas mal de monde, et l'avantage, c'est aussi de les rencontrer, les gens, et de pouvoir peut-être collaborer avec certains d'entre eux, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu des collaborations avec certains?
Avec des gens qu'on a rencontrés, ouais. Bah, le morceau de Puppet Mastaz, par exemple, puis c'est fait parce qu'on les a rencontrés.
D'accord.
Oui, ça s'est passé comment d'ailleurs avec Puppet
Mastaz? Ça s'est passé comment? Bah, on les a vus, on leur a dit bonjour, on leur a filé un son et ils ont dit c'est cool, et voilà, quoi. Et en fait, on savait qu'on allait. Enfin, on allait jouer dans un festival où il y avait énormément d'artistes, c'était Garo Rock il y a 2 ans. On savait qu'on allait les voir et on savait qu'on avait envie de faire un truc avec eux. Et donc on l'a préparé en amont, en fait. Et voilà, on savait qu'on allait se voir et tout ça. Donc eux, ils ont eu l'instru quand même avant, même si on ne se connaissait pas. Et quand on s'est rencontrés, on a pu justement en parler. Et voilà, eux, ils étaient chauds et ça s'est fait, quoi. Après, ça s'est fait pour eux aussi au coup de cœur, je pense. Et...
On essaye, voilà, de collaborer avec des gens, pas juste par calcul ou quoi que ce soit, c'est aussi des affinités, des gens qu'on écoute depuis très longtemps. Il y a Latif The True Speaker, c'est quelqu'un qui a joué avec DJ Shadow, avec Fatboy Slim. C'est DJ Shadow, voilà, c'est un des DJ qu'on a vachement écouté. Et toute l'ambiance Ninja Tunes, parce qu'avant Chinese Man, il y avait le label Ninja Tunes qui développait déjà, c'est des univers un peu comme ça. Un hip-hop qui est très, très instrumental, en fait, très musical, pas seulement...
Qui envoie énormément sur scène.
Oui, qui envoie, mais aussi avec beaucoup de mélodies, en fait.
Bien sûr, il y a
toujours dans beaucoup de morceaux des artistes de Ninja Tunes, il y a souvent des instruments, des choses, des mélodies, des choses qu'on peut chanter... On travaille avec des artistes musiciens, des chanteurs, des MC.
Ouais, il y a un gros travail dans ce
style-là, de ne pas être juste dans le côté... Le hip-hop, des fois, ça peut être un carcan. Or, nous, ce n'était pas l'idée. C'était un outil de groove, un outil d'énergie, mais pas juste un carcan. On a pas... C'est pour ça que des fois, nos morceaux, à l'intérieur d'un même morceau, il peut y avoir différentes phases. On mélange des phases hip-hop, dubstep, électro, drum and bass, des trucs plus chantés, des trucs plus de MC. On essaie vraiment d'être assez variés pour ne pas s'enfermer dans un modèle, quoi.
Ouais, très éclectique. Votre premier album est sorti le 18 mars de cette année. Nasty Streak, c'est ça? Voilà. Des projets pour un deuxième?
Ouais, bien sûr. En fait, là, on va partir à Los Angeles fin février, début mars, pour aller rencontrer des artistes, les enregistrer et faire quelques concerts. Donc l'idée, ça serait de sortir un nouvel EP au printemps. On ne sait pas encore quand, on verra. On est en train de travailler pour, en tout cas. Et puis après, là récemment, on a fait des remixes. On a fait un remix de Deluxe, de Chinese Man. Le morceau s'appelle Daniel. Parce qu'en fait, on travaille avec U-Star, le MC qui est dessus. Ça fait longtemps qu'on collabore avec lui. Il a travaillé sur le projet solo de Hugo. Il a travaillé avec moi aussi sur des autres projets de celui-ci. Et voilà, en fait, c'est vrai que maintenant, ça commence à devenir des vraies relations, des amis. Et tout ce qui est remix, on a fait un remix de C2C. On a fait.
Avec Happy, c'est ça?
Ouais, Happy.
Parce qu'après, on reçoit Shield Bump qui avait aussi fait un remix.
Oui, tout à fait.
Mais c'est arrivé troisième.
Voilà ça.
Vous êtes arrivés avant nous ce soir.
Comme quoi.
Et non mais Chillbum, pareil, c'est des potes. Là, le chanteur de Chillbum vient d'enregistrer une track sur le prochain album de Hugo, donc alias Senbei quand il est tout seul, qui sort la semaine prochaine. Et donc voilà. L'idée, c'est de continuer à avancer, continuer à faire là. Ben, on va partir à Los Angeles, on vient de trouver un agent en Angleterre, en Italie. On essaye de développer en Europe et d'aller rencontrer d'autres publics, d'autres gens, d'autres univers. Et voilà, donc là, je pense que 2014,
plein de projets,
il va y avoir
beaucoup
de routes. Ouais. Et puis entre-temps, on va essayer de composer au maximum pour sortir un EP au printemps et un deuxième album fin 2014 ou début 2015.
Quoi. D'accord, bah, que des bons projets en tout cas. En tout cas, vous êtes à retrouver au backstage ce soir avec... Big Flo and Oli et Chill Bump. Donc en troisième partie de soirée, on vous souhaite un super concert.
Merci de nous avoir accueillis ici.
Et que la merci tout se passe bien par la suite.
Voilà,
merci à vous.
À la prochaine.
Merci
bonne
beaucoup.
Soirée.
They once had a shooting up in the Klondike when they got down.